La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots, avec aujourd'hui au programme de l'éloquence. Bon, je dis ça un peu vite, de l'éloquence, parce que le mot est quand même solennel. Il dit bien ce qu'il veut dire, mais il a un peu de boursouflure, il a un peu de guillemets. On peut parler aussi de conviction, de persuasion, de sincérité, d'aisance en tout cas à l'oral, lorsqu'on parle. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Le problème, c'est qu'il semble que ça s'enseigne et que ça s'apprenne relativement peu, parce que on pense que c'est inné. Stéphane de Freitas s'est intéressé à tout ça il y a quelques années, a commencé par monter des ateliers et puis un concours d'éloquence à l'université de Seine-Saint-Denis à partir de sa structure Eloquentia. Et puis il y a eu un documentaire qui a eu beaucoup de succès, à voix haute, et enfin un livre qui vient de sortir aux éditions du Robert, Porter sa voix. Tout à l'heure, l'émission La danse des mots retrouvera la puce à l'oreille, mais auparavant, nous avons donc rendez-vous avec Stéphane de Freitas. Bonjour Stéphane de Freitas.
Bonjour.
Merci de venir nous parler, puisque c'est bien ça que vous allez faire et c'est de ça que vous allez nous parler. Alors, je viens de dire peut-être un petit peu vite qu'on était réticents, notamment en France, à enseigner ce que c'est que les techniques de prise de parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, dans la tradition scolaire française, l'écrit, en tout cas, dès le début du XXe siècle, a été dominant. C'est-à-dire que l'école, c'est un lieu où le prof parle, mais les élèves prennent des notes, écrivent, et que finalement...
Prennent des notes au mieux, parce que au départ, c'est même la dictée à la virgule près, quoi.
Exactement. Et du coup, cet espace où la classe pourrait être un lieu d'interaction, de dialogue, qui permette justement de développer l'esprit critique, de développer le fait de filtrer les bonnes infos, de les assimiler, puis de les partager, de les confronter aux autres, était relativement absent. Et donc, le postulat qui est à l'origine de la pédagogie Porter sa voix, c'est la même qui est enseignée désormais dans une centaine d'établissements scolaires, et l'Eloquentia est devenue la plus grande structure qui forme à la prise de parole en France, c'est justement cette idée qu'on est dans une génération plurielle, métisse, où tout le monde, dans cette ère du réseau, et par les réseaux sociaux notamment, s'exprime sans toujours s'écouter. Et donc, c'est le pari que les jeunes ont envie de retrouver des cercles de dialogue bienveillants, constructifs, où on peut se parler et aussi s'écouter dans le dialogue, le respect et la bienveillance.
Alors, il faut pas faire d'angélisme, parce que parfois, lorsqu'on voit, par exemple, le titre de votre livre, on se souvient de vieux livres à succès qui étaient « Faites-vous des amis »,« Arrêtez d'être timide », »,« Apprenez à danser », »,« Apprenez à parler à vos voisins ». Là, c'est quand même un petit peu autre chose. Est-ce que vous avez mis au point un certain faisceau, disons, de techniques différentes pour enseigner, à savoir prendre la parole?
Alors, la remarque est très juste. C'est-à-dire qu'on a eu un essor récent, enfin, pas récent d'ailleurs, de longue date, de ces noms de pédagogie un peu marketée, qui consiste à dire l'art d'avoir raison à tous les coups, apprendre à convaincre.
Très à l'américaine d'ailleurs.
C'est très à l'américaine. Et l'idée du livre et de la pédagogie, c'est pas du tout de dire qu'on a des règles qui fonctionnent à tous les coups. C'est de poser un cadre avec des objectifs pour développer l'esprit critique, la structuration du propos, l'introspection. Mais c'est un cadre avec des matières, aussi bien la rhétorique que l'expression scénique, que la poésie, également le slam, aussi des cours de respiration. Et que finalement, ensuite, chaque formateur ou chaque personne qui la pratique va la personnaliser, se l'approprier. Et donc, voilà, c'est juste un cadre et certainement pas des règles qui... Enfin, des cordes qui fonctionneraient à tous les coups à 100%. Non, non, l'idée, c'est plutôt des matières qui permettent de développer cette aisance à l'oral, chacun son rythme, et de pouvoir aussi s'approprier ses objectifs par rapport au niveau où on est.
Alors Stéphane de Freitas, votre succès, parce qu'il faut bien parler de succès, c'est vrai, a commencé avec des ateliers et puis un concours d'éloquence organisé à l'université, peut-être un petit peu sur le modèle de concours qui existait et qui existe encore, en particulier dans les facs de droit, là où on est censé former des avocats, et c'est vrai que ça s'y prête totalement. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent un petit peu à l'école publique, et est-ce qu'on considère que l'expression orale peut avoir une réalité en soi qui est différente, avec une grammaire différente, avec des règles différentes de ce qu'il faut faire pour bien s'exprimer à l'écrit.
Alors, ce à quoi on assiste, c'est la volonté des élèves, et qui rencontre aussi celle des enseignants, de développer plus d'oralité. Il y a deux manières à l'école de développer cette oralité. La première, c'est par rapport aux matières traditionnelles. On voit de plus en plus de profs et d'enseignants qui mettent justement des exercices de prise de parole éducative pour refaire vivre le procès de Nuremberg, par exemple, où certains jouent le rôle des accusés.
Il y a des rôles plus difficiles à tenir que d'autres, c'est sûr.
Que d'autres.
Mais vous, frère Ribbentrop, pourquoi boire, monsieur?
mais donc c'est des manières de passer par l'empirisme, de s'approprier des connaissances, ou quand un enfant, un élève est en situation, il va plus facilement chercher des références, s'instruire, et pour ensuite assimiler le savoir pour le partager avec les autres. Donc ça, c'est un cas de figure. Et puis, il y a des ateliers qui seraient à proprement dit de prise de parole, où là, il y a tous les codes de rhétorique, c'est-à-dire la posture du corps, apprendre à respirer, à porter sa voix. Et donc ça, c'est des ateliers pour lesquels, justement, dans l'ouvrage et pour lesquels je milite, à l'école, il y a des heures de vie de classe. Et à mon sens, ces heures de vie de classe qui aujourd'hui sont au titre de 10 obligatoires chaque année pour les enseignants, qui, paradoxe, ne sont pas payés, c'est-à-dire que les enseignants doivent le faire, et qui, dans la réalité des faits, aujourd'hui, les enseignants en font 3 en moyenne, peut-être un petit peu plus, mais ne sont pas vraiment orientés sur comment faire cette heure de vie de classe. Et justement, ce pourquoi je milite au sein du système éducatif, c'est de faire de ces heures de vie de classe des débats, des échanges, des discussions sur la vie de la classe, la vie à l'école, des faits de société d'actualité qui permettront justement de développer un dialogue, et donc de fait aussi une certaine aisance à l'oral, parce que l'oral, il n'y a pas de secret, hein, même si on
ici on peut donner,
il y a des secrets, il y en a pas, c'est-à-dire que on peut effectivement donner des objectifs et des matières et des exercices qui permettent de développer cette aisance à l'oral, mais ça passe par la pratique.
Ça passe par la pratique et la formation. Alors, faut-il former les profs en même temps qu'on forme les élèves?
Alors, c'est le défi, on le voit avec le rapport Mathieu qui va mettre le grand oral à l'honneur, c'est-à-dire que désormais...
Alors, soulignez-nous un petit peu ça, qu'est-ce qu'on appelle le grand oral? Ça veut dire que les matières proposées à l'oral du baccalauréat vont être modifiées.
Tout à fait, donc dans la réforme du ministre de l'Éducation nationale, il y a un nouveau bac qui va arriver, où la note va compter autour de 20% à peu près de la note, et l'élève va devoir choisir 2 matières principales, ça peut être histoire, géo et français, ça peut être français et anglais, il choisit 2 matières, il pose un sujet, une problématique qui travaille tout au long de l'année, qui rencontre ces 2 matières, et derrière il y a un grand oral, donc il va compter pour 20% de la note sur un exposé, puis un deuxième temps une discussion. Et c'est un signal très fort, mais les enseignants, nous, à l'association Eloquentia, on reçoit beaucoup de messages d'enseignants et aussi d'interrogations, aussi bien d'élèves que d'enseignants, pour se dire, mais comment on forme à l'oralité tout au long de l'année? Et des élèves, évidemment, qui demandent à avoir tout un tas de techniques pour être plus à l'aise et mieux structurer leurs propos.
J'imagine que les enseignants avec lesquels vous êtes en contact sont plutôt favorables à ce que vous pouvez leur apporter. Mais est-ce que c'est le cas de tous? Parce que très souvent, le fait d'être dans une pratique enseignante fait que on est un peu réticent à l'idée de se faire enseigner par quelqu'un. Les profs ont appris beaucoup de choses, mais après, ils veulent plus qu'on leur apprenne des choses. Est-ce que pour vous, c'est un problème?
Alors, ce que j'ai observé depuis que nous, on travaille dans les établissements scolaires, puisque beaucoup d'enseignants font appel déjà à Eloquentia depuis bien 4-5 ans déjà, où on travaille notamment avec le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis sur les départements, c'est qu'en fait, dans les classes, on peut plus... En tout cas, ça devient de plus en plus difficile, notamment dans certains quartiers, de faire classe où les élèves écoutent le professeur sans participer.
Ouais, l'ex-cathédra, en principe, c'est du passé, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que c'est une génération qui est habituée sur les réseaux sociaux à commenter, à contribuer, à confronter ses points de vue, et d'être passif, c'est compliqué. Donc, il y a une soif d'interaction. Et il y a énormément d'enseignants qui, de même, spontanément, ont aménagé leurs cours pour qu'il y ait des temps d'exposé, des cas pratiques, de dialogue, d'échange. Et c'est quelque chose qui est observé par les enseignants. Et donc, nous, quand on vient, on a le sentiment plutôt que le terreau est plutôt fertile. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'annonce de la réforme, il n'y a pas eu de voix, énormément de voix qui se sont élevées contre la réforme. Au contraire, c'est plus comme si c'était la continuité.
Mais il y a ce qu'on appelle des majorités silencieuses. Hein.
Peut-être qu'ils n'ont pas encore porté leur voix. Mais justement, c'est à mon avis quelque chose qui va dans le sens de l'histoire.
Music Talk, on peut pas mieux dire, et c'est Stevie Wonder qui nous le disait dans la danse des mots. Alors, Stéphane de Freitas, j'ai devant moi ce gros livre qui vient de sortir, donc Porter sa voix aux éditions du Robert. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui est sous-titré S'affirmer par la parole? Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut essayer tout seul dans son coin? Ou bien est-ce que c'est simplement un certain nombre de réflexions sur le rapport de la personne, de l'identité à la parole, du corps à la parole? Qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ça?
Alors, je dirais, Yvan, que c'est un petit peu tout ça à la fois. Mon idée, c'était de parler déjà de ce postulat pédagogique qui, à mon sens, notre génération qui est métissée, plurielle, et qui doit co-construire le monde de demain. Et pour y arriver, a fortiori dans une société comme la société française qui s'est demandé, qui s'est questionné aussi sur son identité, pour co-construire cette société, il faut réapprendre à dialoguer. Ça, c'est la première partie, on va dire. Puis, évidemment, dans un deuxième temps, c'est partager tout ce contenu, ce qu'on fait dans les collèges, dans les universités et aussi dans le monde de l'entreprise, comme exercice pour développer cette oralité. La première question qui nous est toujours posée quand on vient nous démarcher, c'est comment on fait pour devenir, pour former à l'éloquence en ce qui concerne les enseignants, ou pour devenir plus éloquent. Et ce à quoi on répond à chaque fois, l'éloquence, on ne sait pas ce que c'est. À mon sens, l'éloquence est un effet. C'est la résultante d'un propos lorsqu'on est aligné entre ce qu'on ressent dans nos émotions, dans nos convictions aussi, ce qu'il y a dans notre cœur, la manière dont on arrive à le structurer, à organiser son propos, c'est-à-dire d'avoir une idée, deux ou trois arguments pour la développer, à chaque fois un exemple pertinent, et que lorsqu'on a fait cet effort de structuration, d'organiser le propos, on utilise les bons mots avec la bonne manière et le corps pour le formuler. Ça, c'est le troisième temps. C'est quand on le partage. C'est quand la parole n'est que la résultante de cette introspection, puis de cette structuration de la pensée, et pour le partager. Et quand
il y a cet alignement... C'est ce que vous appelez la congruence.
Absolument. C'est la congruence. Pour à mon sens, le meilleur moyen d'atteindre l'éloquence...
Que ça soit congru. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon alignement entre un certain nombre de points.
Exactement.
Et de zones, on peut dire même.
Tout à fait. Mmh. Et de dire qu'il y a autant d'éloquence que d'individus. Il y a autant d'éloquence que de manière d'être. C'est-à-dire qu'une personne même timide, si elle arrive à faire cet alignement au début et à faire son introspection, puis de finalement réussir à défendre quelque chose qui lui tient à cœur, elle va naturellement avoir les mots qui vont refléter au plus profond de son âme ce qu'elle est, qui elle est, et elle sera éloquente.
C'est vrai, avec toute la virtuosité parfois qu'on peut avoir. Parce que de façon presque perverse et hypocrite, quelqu'un qui est timide ou qui joue la timidité peut être extraordinairement éloquent en mettant en scène cette timidité. Même d'ailleurs si c'est une fausse timidité. C'est comme ça qu'il peut parfois persuader, bien sûr.
Absolument, absolument, tout à fait. Donc l'idée c'est ça, et d'avoir des exercices qui permettent... Alors il y a 5 matières... L'idée pour développer l'oralité, c'est de faire un voyage à travers différentes formes de prise de parole. Pas uniquement avoir cette idée que l'éloquence est forcément le cours de rhétorique un peu classique, où il faut s'exprimer avec une patate chaude dans la bouche, ou un stylo dans la bouche. C'est évidemment un des pans de l'oralité, de la rhétorique classique. Mais aussi travailler sur l'expression scénique, l'expression de partager nos émotions, réussir à les révéler, à s'ouvrir aux autres, à les partager. Puis aussi... sur le corps, de manière organique, d'exercices pour la respiration, pour contrôler le stress aussi quand on est dans des situations de prise de parole en public ou face aux autres, d'apprendre à le gérer parce que le souffle, c'est l'essence, en fait, d'une prise de parole. Et évidemment, des prises de parole plus artistiques, comme avec le slam, le rap, parfois aussi le stand-up, il y a plein de petits exercices différents. Et évidemment, des débats, apprendre à débattre, plutôt ça à destination des... du public scolaire.
Est-ce que de temps en temps, dans votre livre « Porter sa voix », Stéphane de Freitas vous donnait des recettes, des ficelles, même si ça marche pas à tous les coups? Par exemple, on sait très bien que quand on est stressé, on a intérêt à ralentir le débit. Spontanément, quand on a peur, on se met à parler de plus en plus vite, et même à parler de plus en plus haut. Si on prend l'habitude, quand on sent que ça vient et qu'on ne maîtrise plus très bien les choses, de se dire... je ralentis mon débit et je baisse un petit peu mon ton de voix, ça aide. Est-ce qu'il y a des techniques de ce genre-là dans votre livre ?
Tout à fait. En fait, on aborde effectivement ces situations-là où, en situation de stress, d'apprendre à respirer. Il y a cette petite technique de la ponctuation du silence, par exemple. C'est quelque chose qu'on donne. C'est lorsqu'on sent qu'on est en train de perdre le fil, qu'on commence à être stressé. Alors, on y visualise dans nos écrits, dans nos notes ou dans les discours qu'on a écrits, les virgules. Et à chaque virgule, on fait une seconde de pause. Et à chaque point, on prend 2 secondes de pause. Et naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on ralentit le rythme, ça nous permet de réfléchir, de retrouver le fil de notre propos et donc de redevenir à un stade neutre où on se retrouve et on redevient naturellement plus juste dans ce qu'on a envie d'affirmer. Donc effectivement, il y a une série de conseils de ce genre-là.
Souvent, pour les gens qui écrivent, on parle de l'angoisse de la page blanche. Est-ce qu'on peut parler d'une angoisse de ce qui précède le premier mot ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour commencer quelque chose ? Commencer un cours, une conférence, une causerie ou même une conversation avec quelqu'un avec qui on a un rendez-vous. C'est difficile, le premier mot. On est là face à face, on se connaît ou on se connaît pas, on n'a encore rien dit. On se jette à l'eau un peu.
Sur le premier mot d'un discours qu'on est amené à faire, il y a un temps qui nous appartient, qui appartient à l'orateur. Parce qu'après, c'est le grand vide. On saute dans le grand vide, on ne sait pas si on va avoir le trac, si on va avoir des hésitations, si on va bégayer, si on va même oublier des idées qu'on avait prévu de dire. Donc ce silence, c'est le seul moment où, en fait, on est en sécurité et qui appartient à l'orateur.
Et il y a une certaine volupté là-dedans. Les quelques secondes, il se trouve que ça m'est arrivé quand même assez souvent, où vous devez parler devant 50 ou 100 ou même plus, vous avez un micro. Vous arrivez, vous êtes debout, et vous regardez les gens et vous sentez l'assistance. Ça dure 1, 2, 3 secondes, pas plus. Mais c'est le petit silence qui précède le premier mot et on goûte un petit peu ce que va être l'audience. L'assistance même, j'aime bien ce mot d'assistance. Ils vous assistent, ceux qui sont en face de vous.
Tout à fait. Et donc c'est un silence qu'il faut prendre et qui nous permet 3 choses. La première, c'est de palper l'assistance, comme vous dites Yvan. La deuxième chose, c'est de retrouver le fil des premiers mots qu'on va dire. Parce que quand on se lance et qu'on rate l'entrée en matière, cette première phrase que moi je conseille, peut-être pas d'apprendre par cœur au mot près, mais de bien maîtriser, si on rate cette prompte de lancement, on peut derrière être un peu stressé, justement, où c'est là où vient l'angoisse. Et la troisième chose, c'est le silence. Quand un orateur a ce silence, tout le public est suspendu à ses lèvres. Et donc c'est un moyen de capter l'attention, la concentration, se permettre de poser un silence auprès d'un auditoire. C'est un luxe, mais c'est aussi un appel à la concentration de l'auditoire qui, à ce moment-là, attend. Et faites-le, testez-le quand vous faites un discours en public. Vous vous posez devant l'auditoire, vous prenez le silence et vous attendez que le silence se fasse et il se fait naturellement.
Alors bien sûr, on a cette possibilité d'être devant un auditoire nombreux, mais parfois on est aussi en tête-à-tête. Et évidemment, la première situation qui vient à l'esprit, c'est celle de l'entretien d'embauche. Je cherche du travail. J'ai enfin décroché un rendez-vous avec un DRH ou son assistant ou je sais pas qui. J'ai mis mes beaux habits, pas trop, j'entre, j'ai les fesses serrées, je m'assois. Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que ce sont aussi des situations que vous avez prises en compte dans votre livre sur porter sa voix ?
Tout à fait. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle la boussole à entretien. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'en fait, notamment dans les situations d'entretien d'embauche où on doit être convaincant, c'est de préparer en amont les attentes, imaginer les attentes que notre interlocuteur va avoir et de bien l'organiser pour faire en sorte que finalement il ait le sentiment de conduire l'entretien, mais vous avez à peu près anticipé les questions et ce qu'il attend de vous comme réponse et de lui donner un petit peu ce qu'il a envie d'entendre.
Sans qu'il le sache, sans qu'il le comprenne, parce que sinon il sera dépossédé de son pouvoir et il sera pas content.
Exactement, c'est-à-dire sans qu'ils s'en rendent compte, dès l'introduction, quand on fait un entretien d'embauche typiquement, apprendre à se présenter pour faire le menu de notre parcours et de mettre en avant les expériences qu'on a envie justement que la personne en face de nous se saisisse et que derrière, au bout du compte, on peut très bien choisir ce qu'on a envie de mettre dans notre CV, on peut très bien choisir ce qu'on a envie de mettre dans cette introduction et la plupart du temps, notre interlocuteur rentre dans ces propositions qu'on a envie de faire. Mais encore faut-il lui suggérer et bien le mettre en avant et dès lors, il y a beaucoup moins d'aléas et on peut mieux orienter notre propos et être plus convaincant dans ces situations-là.
Alors, la voix, c'est du corps. C'est peut-être la partie la plus spirituel du corps, c'est une fumée du corps, mais c'est corporel quand même. Est-ce que vous avez envisagé justement comment on pouvait utiliser un langage du corps qui à l'évidence existe ?
Alors effectivement le langage du corps, que ce soit la voix, le regard, la gestuelle, c'est finalement la chair du discours. C'est ce que le public va percevoir, c'est ce langage non-verbal qui est tout aussi important Parce qu'on peut, dans ce langage non verbal, capter, avoir un échange avec, regarder l'auditoire dans les yeux, c'est quelque chose qui permet de capter l'attention, d'avoir des appuis. Donc, il y a tout ce langage non verbal qui est au moins aussi important que le propos qui est porté par la voix.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane de Freitas pour tout ce que vous nous avez enseigné ici. Je rappelle votre livre, Porter sa voix, sous-titré S'affirmer par la parole. C'est aux éditions du Robert. Vous écoutez maintenant La Danse des mots et bien entendu pour la première fois de cette nouvelle saison, nous accueillons La Puce et Lucie Bouteloup.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour mon cher Yvan, je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines
aussi.
De vacances. Et pour bien commencer cette rentrée, la puce va jouer les bonnes fées en revenant sur une expression qui vous portera chance à tous, on l'espère, avoir de la veine.
Avoir de la veine, c'est tout moi.
Mais avant de célébrer cette baraka, ce bol, cette chance insolente, vous êtes-vous seulement demandé d'où venait cette expression ?
Cette expression bordée de nouilles, eh bien non, je ne sais pas d'où elle vient.
Eh bien pour vous répondre, le docteur Miliès Lacroix, qui a récemment fait paraître 200 drôles d'expressions qui ont du corps aux éditions Le Robert, sera avec nous dans quelques instants. Mais avant, pour notre plus grand bonheur, on retrouve nos apprentis linguistes. Cette semaine, j'ai tendu mon micro au CE2 de Madame Chi de l'école Chaumel à Paris. Tendez l'oreille.
De la peine ou qu'on est un peu triste.
Ça veut dire avoir beaucoup de chance, parce que veine, ça, c'est un peu comme vénard.
Qu'on est heureux. Comme on a de la veine, ça veut dire qu'on n'est pas malade, parce qu'on a de la veine, c'est un fil de sang.
Se sentir pas très bien, parce que si on fait mal à ta veine, ça peut faire mal et on se sent pas très bien.
La veine, ça veut dire qu'on a plein de veines dans notre corps et du coup, après, on s'en sort plus avec les veines. Ça veut dire après, on est mort.
Ça veut peut-être dire qu'on a la haine contre quelqu'un qui nous a fait du mal.
C'est quand on a beaucoup d'énergie. Parce que dans les veines, il y a le sang qui coule. Et le sang, on le prend pour courir et faire beaucoup de choses.
Veine, moi, je trouve que c'est quand on est intelligent. Puisque quand on a beaucoup de veines, je crois que c'est quand on est intelligent.
Avoir de la veine, ça veut dire qu'on n'a pas peur de dire les choses, ce qu'on ressent et voilà.
Peut-être qu'avoir de la veine, ça veut dire être en forme tout le temps, ne jamais être fatigué. Jamais vouloir se reposer, parce que si on n'a pas de sang, on peut plus bouger, on n'a rien.
La puce à l'oreille.
Alors, docteur Miliès Lacroix, là encore, plein d'idées de cette classe de CE2 autour de cette expression « avoir de la veine ». Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propositions ?
Écoutez, je suis très intéressé par ce genre d'interview parce que là, on est dans une situation où la majorité ont été influencés par le sens qu'ils connaissaient de la veine, c'est-à-dire le conduit qui transporte le sang. Et donc ça les a perturbés beaucoup pour la compréhension de l'expression. Il y en a un ou deux qui ont compris qu'il s'agissait de chance parce qu'ils avaient déjà entendu l'expression
«
j'ai de la veine »,« vénard ». Et ça s'explique parce que l'origine de cette expression, c'est pas du tout la veine au sens anatomique, mais c'est la veine au sens de l'inspiration poétique. Un terme latin, vena, qui voulait dire inspiration poétique. Et au 19e siècle, les joueurs, les parieurs ont repris cette expression-là pour dire qu'ils avaient de la veine quand ils gagnaient. Donc, ils avaient eu une inspiration qui n'était pas poétique, mais ça leur avait permis de gagner. Mais ça n'a aucun rapport avec la circulation du sang, et ça a beaucoup perturbé les enfants qui ont essayé, et c'est très intéressant la façon dont ils ont essayé de théoriser à partir de ça.
Alors, la veine, c'est aussi le petit filon mince d'un minéral qu'on trouve dans la roche, le gisement, c'est-à-dire que on exploite les veines dans les mines et on y trouve parfois de l'or. Et on peut dire que quand on tombe sur une bonne veine, et ben là vraiment on a de la veine.
Oui, tout à fait, c'est une autre acception.
Alors comme vous le disiez, cette expression « avoir de la veine », elle apparaît au 19e siècle, mais le sens moderne de veine comme chance, il a été précédé par d'autres expressions en usage au 18e. À ce moment-là, on disait « tomber sur une bonne veine », c'est-à-dire sur un filon en référence au filon dont je vous parlais tout à l'heure. Et on disait également être dans une bonne veine, donc être en veine. Et puis au fur et à mesure, l'expression a évolué pour finalement arriver à avoir de la veine. Alors on dit aussi avoir une veine de cocu ou avoir une veine de pendu, pour parler donc d'une chance insolente, parce que la tradition veut que la chance au jeu du mari trompé soit peut-être une compensation à la mesure des infractions conjugales, comme dit le proverbe, heureux au jeu, malheureux en amour.
Oui, exactement. C'est effectivement le phénomène de la compensation. Pour ce qui est du pendu, là, c'est moins intéressant.
Mais le pendu, on disait que la corde du pendu portait chance aux autres.
Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées au pendu qui portaient chance, effectivement.
Alors, avoir de la veine, c'est une expression qui n'a rien à voir avec se saigner aux quatre veines.
Tout à fait.
Se saigner aux quatre veines, ça veut dire se sacrifier, souvent financièrement, pour quelqu'un. Et ça n'a rien à voir non plus avec avoir du sang dans les veines, c'est-à-dire avoir du courage.
Oui, tout à fait. Enfin, pour ce qui est de l'expression « se saigner aux quatre veines », ça date de l'époque où la saignée était quand même un des traitements de base de la médecine. Et en général, on saignait une veine. Et c'était déjà relativement problématique parce que ça entraînait des anémies importantes et c'était pas un très bon système pour soigner les gens, sauf quelques cas rarissimes. Quant à se saigner aux quatre veines, c'était carrément se sacrifier totalement. Mmh. C'était vraiment offrir sa vie pour quelqu'un. Donc les parents qui se saignent aux quatre veines pour élever leur enfant, c'est l'exemple type de l'expression extrême où l'on considère qu'ils ont vraiment tout donné pour leurs enfants.
Alors, est-ce que vous savez que en Allemagne, au lieu de dire avoir de la veine, on dit avoir du cochon ?
Non, j'ignorais l'expression allemande. J'ai pas revu toutes les expressions étrangères équivalentes.
En Espagne, on a une pouliche.
Oui, effectivement.
Alors, chacun choisit son animal. En Italie, on a du cul, tout simplement. Et au Brésil, on a le cul tourné vers la lune. Eh bien, merci, docteur Méliès Lacroix. J'espère que cette chronique portera chance à tous les auditeurs qui l'auront écoutée. Qu'elle vous portera chance aussi, mon cher Yvan, et puis à moi aussi d'ailleurs un petit peu. On se quitte en chanson avec ce petit coup de chance. On vous embrasse tous bien fort.
Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Et le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera.
Eh bien, merci Bourville, merci La Puce, merci Lucie Bouteloup et merci bien sûr à Stéphane de Freitas qui était dans la première partie de cette émission La Danse des Mots qui vous est proposée par le réseau Canopée et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.
Et le petit coup de chance est toujours là.